Isadora Kosowski, 23 ans, se définit comme photographe documentariste. Elle a suivi pendant 6 ans Vinnie et David, deux frères détenus dans une prison pour mineurs d'Albuquerque au Nouveau-Mexique, États-Unis. Son exposition intitulée « Mineurs, la vie en prison et après la détention » porte un regard intime sur l'incarcération des jeunes et sur leurs familles. Nous l'avons rencontrée pendant le festival Visa pour l'image. Voici un extrait de cet entretien.
Qu'est-ce qui vous a amené à devenir photographe ?
J'ai pris un cours de photo de développement d'argentique au collège. Je savais que je voulais toujours être journaliste de guerre parce que je voulais aider le monde à travers le journalisme. Mais je me suis rendu compte à l'âge de 13 ans, quand j'ai trouvé la photographie, que c'est vraiment les guerres entre personnes qui m'intéressent. Je veux travailler avec les communautés en marge et je veux travailler avec des gens qui se sentent invisibles. Donc je me suis rendu compte que je ne voulais pas vraiment faire de photojournalisme de guerre. Je voulais me dévouer à travailler avec les gens dans l'intimité et je voulais vraiment travailler sur des sujets aux États-Unis qui ne sont pas exposés. Je voulais vraiment fracturer ce rêve. Je voulais montrer les injustices là-bas. J'ai perdu ma grand-mère qui était ma meilleure amie quand j'avais 13 ans et j'étais très perdue. Je me sentais un petit peu prisonnier dans ma situation familiale et je me sentais à part des gens de mon âge. Donc j'ai commencé à faire des photos des gens du troisième âge qui me rappelaient ma grand-mère. Et je commençais à parler aux gens pour améliorer ma solitude. Et je voyais que les gens étaient très affectés par ma passion pour la photo. Les gens étaient intrigués parce que la plupart que je voulais photographier, c'était des gens qui se sentaient en solitude aussi. Donc je travaillais avec des gens du troisième âge qui n'avaient pas vraiment de lien avec leur famille. Parce qu'en fait, aux États-Unis, nous n'avons pas vraiment de respect pour les gens âgés, qui sont vraiment à part de la société, on les oublie. Donc en faisant ces genres de reportages avec des gens qui se sentent à l'écart, pas vraiment vus par la société, oubliés, j'ai continué avec ce thème. C'est ça qui a démarré mes reportages dans le milieu carcéral, après.
Pourquoi avez-vous choisi de suivre ces mineurs-là, Vinnie, David et Alizia, en particulier ?
C'est vraiment une question d'intuition avec ce genre de travail. Donc, j'ai commencé à faire des démarches pour avoir accès au centre pénitentiaire pour les juveniles quand j'avais 15 ans. Tout le monde pensait que j'étais complètement folle, évidemment. Et j'ai écrit beaucoup de lettres en disant « Mais en fait, je suis photographe, je suis très jeune et j'aimerais faire un reportage sur les jeunes en prison. » Et je n'ai pas pu avoir accès au centre de détention pour pouvoir photographier d'autres jeunes. Donc j'ai envoyé des lettres en Europe. J'ai essayé en Allemagne, ils ont des lois contre ça, on ne peut pas prendre de photos dans ce genre de centre en Allemagne. J'ai essayé à peu près partout et en fait j'ai pu avoir accès en Roumanie. J'avais pas vraiment l'idée d'aller là-bas, c'était pas vraiment pour des raisons sociopolitiques. C'était vraiment parce que j'ai pu avoir accès et j'étais photojournaliste mais j'étais aussi mineure. Donc à l'âge de 16 ans. Je suis allée là-bas, j'ai eu une bourse pour des jeunes artistes aux États-Unis et j'ai passé quelques mois en Roumanie et j'ai fait un reportage dans le centre de détention. C'était vraiment une prison pour mineurs là-bas. J'ai retourné et j'ai eu 18 ans et j'ai resoumis mes requêtes pour avoir accès au lieu carcéral pour mineurs aux États-Unis et j'ai eu plusieurs réponses. Donc j'ai quitté l'université, j'ai fait plusieurs reportages dans le centre de détention pour mineurs. Le premier c'était dans l'état d'Oregon. 6 mois après, je suis allée au Nouveau-Mexique parce que j'ai pu avoir accès au centre à Albuquerque. C'est là où j'ai rencontré Vinnie. Donc j'ai fait 2 semaines de travail dans ce centre. Je faisais des portraits de jeunes dans leur vie quotidienne, chaque jour. ce qui se passe à l'école, dans le centre, pendant les visites, pendant les repas, je photographiais, je faisais des interviews. Mais je me suis rendu compte que c'était pas assez humaniste de travailler comme ça, parce que je montrais seulement les jeunes dans le cadre carcéral. Ça mettait des limites sur leurs identités et je pensais que je renforçais les stéréotypes sur ces jeunes en faisant seulement le reportage dans le milieu carcéral. Donc je savais qu'il fallait que je trouve une famille. Et c'est quelques jours après cette idée que j'ai rencontré Vinny. Je l'ai vu, il était beaucoup plus petit que moi, je l'ai vu de profil et j'ai tout de suite ressenti un lien avec lui. Je ne savais même pas les détails de sa vie et j'ai tout de suite ressenti quelque chose. C'est quelque chose que je ressens à chaque fois quand je rencontre quelqu'un que je suis pendant des années. Donc c'est une curiosité, c'est un lien assez mystérieux. Je ressens quelque chose et je sais que je dois suivre cette intuition. Donc j'ai commencé à lui parler, il m'a dit qu'il était là pour avoir poignardé l'homme qui agressait sa mère. Et il m'a parlé de son frère David, qui avait 19 ans en 2012. Et son frère était aussi en prison, mais au centre pour les majeurs, pour les adultes, dans la même ville. Et il m'a dit, en fait, mon frère, il n'est pas bien, mais il n'est pas mauvais non plus. Je l'aime beaucoup. Il voulait voir son frère. Et l'amour qu'il avait pour son frère m'a beaucoup touchée. Et je savais que je voulais faire un reportage sur ses deux frères, mais je savais que ça serait très difficile avec David. Donc j'ai rencontré Eve, la mère de Vinny, 2 jours après au tribunal. Et je lui ai demandé si je pouvais rencontrer toute la famille. Je suis allée à l'appartement de Eve et j'ai toqué à la porte. Et David était là et il voulait pas que je rentre. Et ça m'a pris presque 1 an pour avoir sa confiance. Parce qu'il était tellement paranoïaque à cause des drogues et il vendait de la drogue aussi. Donc il pensait que j'étais de la police, que j'étais là pour servir comme espion, des tas de trucs. Mais je savais, pour pouvoir suivre et vraiment comprendre la vie de Vinny, c'était essentiel de suivre la vie de David et de raconter cette histoire comme histoire d'amour entre deux frères, qui est quelque chose que beaucoup de monde peuvent comprendre, mieux que strictement une histoire dans le milieu carcéral. Parce qu'il y a ce côté très universel dans l'histoire, quand on prend un regard familial. Et c'est ensuite que j'ai rencontré Alicia dans le même centre, côté des jeunes femmes. C'était des filles entre 9 ans et 17 ans. Elle était là, elle avait 16 ans. Et c'est aussi, j'ai ressenti une intuition quand je l'ai vue. J'ai commencé à discuter avec elle. Elle était là pour avoir abusé de la drogue et là, apparemment elle a eu un conflit qu'elle ne se souvient pas avec la police. Et moi j'ai vraiment trouvé que c'était une injustice, j'ai trouvé ça comme violence politique. Elle a tellement souffert pendant sa jeunesse, je trouvais que ça montrait un système avec beaucoup de manque de dignité d'avoir arrêté et placé Alicia là. Donc, j'ai commencé à suivre sa vie. Elle était placée dans un autre centre de réhabilitation et ensuite placée dans une autre famille. Et maintenant, je continue à suivre sa vie. Elle est mariée, elle a sa fille et elle veut devenir infirmière.
Beaucoup de vos photos nous montrent ces personnes dans leur intimité. Comment avez-vous fait pour que sur les photos, on ne remarque pas la présence de l'appareil et comment avez-vous gagné leur confiance ?
Oui, c'est vraiment le temps. C'est de prendre le temps à être là avec eux dans leur vie privée, des fois sans prendre de photos pendant des semaines, même des mois. C'est d'être là, Des fois, j'écoute pendant des heures, des jours, et sans prendre de photos. Des fois, je suis là sans rien dire, à observer, être juste là, dans l'espace avec eux. C'est vraiment le temps pour avoir accès aux moments les plus intimes. Et je pense que dans ce genre de métier, on écoute pas seulement avec les oreilles, mais on écoute dans toutes les façons. On est vraiment là avec eux, à ressentir, à comprendre, à être sans jugement. Et je pense que mes sujets ressentent ça. Ce genre de reportage est un acte de résistance contre l'injustice et que peut-être en racontant leur histoire, c'est un acte de juste. Donc, c'est vraiment le temps, passer le temps avec eux, comprendre comment s'agir dans des lieux privés avec des humains, comment être un humain, comment vraiment devenir invisible. Et on devient invisible quand on est authentique et honnête avec les gens dans le reportage.
Êtes-vous toujours en contact avec Vinnie, David et Alicia, les trois protagonistes de votre exposition ?
Oui, oui. Tout le monde, quand je travaille sur un projet personnel, je continue les relations avec mes sujets indéfiniment. Donc, quand j'ai rencontré David en 2012, je lui ai dit « Je vais te connaître dans 10 ans ». Et il me dit « Ah, t'es vraiment une menteuse ».
En prenant cette photographie, celle de Vinnie et sa mère pleurant, qu'avez-vous ressenti ? Et aujourd'hui, si vous regardez cette photo, quel sentiment éprouvez-vous ?
C'était assez difficile de prendre cette image en 2012 parce que comme j'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'expérience. J'ai pas développé ces barrières entre moi et mes sujets que j'ai maintenant quand je travaille. Donc quand j'étais là à prendre cette photo, c'était très difficile de ne pas intervenir. Je sentais que je pouvais rien faire pour lui, que j'avais pas de pouvoir, et ça m'a beaucoup déprimée. Mais je me suis rendu compte au fil des années que ma seule responsabilité est de faire mon reportage. Et je continue à travailler sur des sujets avec beaucoup de souffrance. Et des fois, quand je rentre chez moi, je suis déprimée, évidemment.
Quand vous faites des reportages, vous devez faire énormément de photos. Comment pouvez-vous juger qu'une de ces photos a réussi ?
C'est assez très difficile, c'est pourquoi j'ai plusieurs éditeurs. C'est très important avec le travail personnel en particulier d'avoir quelqu'un qui regarde les images après parce que moi je suis vraiment là avec mes sujets et moi je ne peux pas vraiment juger les images. Il y a des images que je sais quand je les prends que c'est bien exécuté, mais la plupart du temps je ne peux pas vraiment juger, j'ai besoin d'un peu d'écart. Donc je envoie les images à mes éditeurs et c'est eux qui choisissent les images, mais c'est pas eux qui ont le choix final. La plupart du temps, je discute avec eux, je les explique s'il y a une image qui est importante dans l'histoire. Les éditeurs critiquent les images, mais des fois, j'envoie pas des images que je ne veux pas exposer. Pour certaines raisons. Je communique avec mes sujets et je leur demande s'il y a certaines images qu'ils ne veulent pas exposer. Et j'essaie de respecter ça. Je ne voulais pas d'images d'abus de drogue parce que je trouve qu'il y a tellement d'images comme ça, on peut même inventer ça dans le cerveau très facilement. On voit ça tout le temps à la télé. Donc pour moi, c'est vraiment d'introduire quelque chose d'autre, d'introduire un langage visuel qui est différent, qui fait pas partie des stéréotypes. Et on voit ce qui se passe dans les images et on comprend avec les légendes qu'il y a l'abus de drogue, il y a trafic de drogue aussi dans l'histoire. Et aussi, je ne veux pas mettre mes sujets en danger. Ça, c'est très important. Des fois, les publications me demandent des images plus sensationnelles et je refuse parce que pour moi, c'est d'être humaniste et de montrer une histoire humaniste. Ce n'est pas de montrer une histoire qui fait partie d'une formule. Donc, j'en vois pas certaines images qui font partie des stéréotypes et que je trouve ne font pas partie d'un reportage humaniste.
Que retirez-vous de ces moments passés à suivre ces personnes pendant ces années, aussi bien sur le plan personnel que comme photographe? Qu'est-ce que ça vous apporte?
Moi, je vois mes sujets comme profs. Ce sont mes profs de vie. Et avec chaque reportage, je reçois beaucoup de leçons de vie. Et je pense que je suis beaucoup plus tolérante maintenant et je comprends mieux ma vie familiale. J'ai beaucoup plus de tolérance pour mes propres parents. J'accepte qu'ils sont imparfaits. Je pense que j'ai beaucoup plus de patience, j'espère. Pour moi, le but est de devenir une personne avec plus d'empathie. Ça, c'est vraiment le but. Et de continuer à écouter et d'être une personne pour les gens que je voulais dans ma propre vie quand j'étais jeune. Je voulais toujours avoir quelqu'un qui m'écoutait, qui me comprenait, quelqu'un qui me voit. Donc pour moi, c'est d'être pour les autres ce que je voulais pour moi-même. Je pense au fil des années, en faisant ce genre de travail, j'ai beaucoup plus d'espoir en fait. Même quand je travaille avec les sujets avec beaucoup de souffrance, j'ai beaucoup d'espoir parce que je suis témoigne à beaucoup de résilience qui me touche beaucoup. Et moi, je me sens très privilégiée de faire ce genre de travail. Même pas les psychologues ont accès aux gens comme ça. J'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé ce genre de métier tellement jeune. C'est vraiment pas du boulot, c'est une vie, c'est un style de vie. En fait, quand je travaille, je pense que j'ai développé mon identité à travers mes reportages et j'ai pu avoir beaucoup plus de confiance en moi-même en faisant ce genre de travail. En travaillant dans l'intimité avec les gens, j'ai pu comprendre ma propre vie beaucoup plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup.